Bonsoir, l'intersyndicale du Congo plaide pour le paiement des salaires décents en RDC. Cette structure a lancé cet appel le 1er mai dernier au cours de la célébration de la Journée internationale du travail, placée sous le thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». En réaction, le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi réaffirme la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions du travail en RDC. Quelle est pour faire des revendications des travailleurs? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 4 mai 2015. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Robert Ngabi, conseiller au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi. Monsieur Ngabi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Guy Kolela Tshibangu, président de la Confédération syndicale du Congo et président de l'Intersyndicale nationale du Congo. Monsieur Kolela, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Polydor Tangeli, psychologue du travail, analyste des questions sociales et expert en matière du travail. Monsieur Tangeli, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Ado Kuti Kudichini. Nous posons souvent la question de savoir si le travailleur congolais n'améliorera son travail que s'il touche un salaire décent. Est-ce évalue-t-il sa production avant de penser au salaire? Parce qu'actuellement, dans la fonction publique, il y a beaucoup d'agents qui ne produisent rien pour l'avancement du pays, mais attendent seulement à toucher un salaire à la fin du mois. Eric Ongutoko, le gouvernement n'a pas cette bonne volonté, car ce refrain revient chaque année sans améliorer le social des travailleurs. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Célébration le 1er mai dernier de la Journée internationale du travail placée sous le thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». À cette occasion, l'intersyndicale du Congo plaide pour le paiement des salaires décents en RDC. Guy Kolela, président de cette structure, estime qu'il est impérieux pour le gouvernement congolais de faire la révision du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, dont l'application a été décidée dans l'accord de Mboudi signé en 2004 à Kinshasa. Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale a exprimé la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de travail en RDC. Reportage Jacques-Yves Molima.
Il n'est pas acceptable que chaque année, l'intersyndicale du Congo, par la voix de son président, s'époumonne sur la tribune à l'occasion de la manifestation de la Journée internationale du travail sans que des solutions aux problèmes soient envisagées. Parmi les problèmes majeurs figure la question des salaires. Guy Kolela.
Le tableau dépeint de la situation sociale des travailleuses et travailleurs congolais demeure caractérisé par les impayements et le sous-paiement bâti sur la politique déplorable de bas salaire.
Pour le président de l'intersyndicale du Congo, il est impérieux que le gouvernement s'engage à trouver des solutions idoines aux différentes recommandations contenues dans le cahier des charges des travailleurs. En réponse, le vice-premier ministre en charge du travail, emploi et prévoyance sociale parle de l'engagement du gouvernement quant à ce. Willy Makiasi.
Je peux réaffirmer que le gouvernement s'inscrit dans l'optique d'améliorer les conditions des travailleurs à travers le paiement régulier des salaires en vue d'augmenter son pouvoir d'achat dans un environnement macroéconomique stabilisé.
Mais pour de nombreux travailleurs, c'est du déjà entendu, car leurs conditions de vie restent inchangées.
Toujours en cette Journée internationale du travail célébrée le 1er mai dernier à Kinshasa, une structure regroupant essentiellement les jeunes chômeurs a organisé une marche pacifique pour faire respecter l'article 36 de la Constitution. Le coordonnateur de la synergie des organisateurs de la jeunesse souhaite être reçu par le ministre de l'Emploi afin de présenter le cahier des charges initié par cette organisation des chômeurs et aussi être impliqué dans la réflexion sur la problématique de l'emploi des jeunes dans le cadre du programme du gouvernement Proyen dans Okoma, le dit Abiri Luchaka.
La marche en question, nous l'avons organisée pour essayer d'élever la voix des jeunes chômeurs ici au Congo, comme vous le savez par rapport à l'article 36 de notre constitution qui stipule à ce que l'État puisse donner du travail à tout Congolais et puis protéger le chômeur. Et c'est dans cette optique que nous avons pris l'initiative d'organiser cette activité, la Marche Pacifique des Chômeurs, en date du 1er mai 2015. Et au-delà de ça, nous voulons aussi l'amélioration des conditions de travail de certains jeunes. Parce qu'il y a de ceux-là qui travaillent, bien sûr, qui ont des petits jobs, si on doit les appeler ainsi, et qui travaillent avec des conditions très très délicates. Vous prenez l'exemple, dans certaines sociétés où ce sont les expatriés qui sont chefs, il y a des jeunes qui travaillent pour 1 000 francs pour 10 heures du temps. Vous voyez, donc ils travaillent parfois sans pour autant avoir même accès aux besoins vitaux, c'est-à-dire aller même au petit coin. Donc ce sont ces genres de conditions que nous sommes en train de décrier pour que cela soit aussi amélioré.
Alors, Monsieur Guy Kolela, je rappelle que vous êtes président de la Confédération syndicale du Congo et président de l'intersyndicale nationale du Congo. L'intersyndicale du Congo plaide pour le paiement décent des travailleurs.
Oui, madame.
C'est presque chaque année qu'on entend ce refrain. C'est devenu un peu comme une routine, quoi. Le discours ne change pas.
Oui, nous l'avons relevé dans notre discours, mais je crois que la lutte est perpétuelle. On doit toujours lutter.
Mais pourquoi, selon vous, le gouvernement n'arrive pas à répondre à vos revendications?
Il répond, mais pas dans toutes les hypothèses. Dire qu'il ne répond pas, ce n'est pas aussi correct.
Soyez plus précis, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, par exemple, il y a déjà des tribunaux du travail. Et les tribunaux du travail, nous avons souhaité que ça soit... après la phase expérimentale, qu'on passe à la vitesse supérieure au niveau de toutes les provinces. Ça, c'est un acquis. Mais il faut qu'on aille encore de l'avant. Et dernièrement, Son Excellence a donné son quitus pour qu'au troisième trimestre, nous puissions négocier. Nous puissions nous retrouver au Conseil national du travail. Ça fait des années qu'on ne se retrouvait pas au Conseil, mais il y a déjà un quitus, il y a sa correspondance. Et d'une manière officielle, il a dit ça le 1er mai. Je pense que ce sont des avancées. C'est pour dire quelque part, il y a dialogue et on ne fait pas du surplus.
Alors, le ministre de l'Emploi a réaffirmé la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions des travailleurs en RDC. On a suivi certains travailleurs dans le reportage de Shakif Moulima qui estime que c'est déjà entendu, il n'y a rien de nouveau.
C'est tout à fait normal. Je vous dis qu'on doit continuer à lutter. Là, c'est sur le plan macroéconomique, n'oubliez pas. On a plusieurs niveaux de négociation. Sur le plan macroéconomique, où l'État doit donner des grandes lignes, par exemple sur l'emploi, sur les salaires, c'est ce que nous attendons. Mais au niveau des entreprises, il y a beaucoup qui s'est fait. Il y a beaucoup qui s'est fait.
Comme quoi, par exemple? Puisque quand on pose la question aux travailleurs, c'est le même discours. Les conditions de travail sont mauvaises, on nous paye très mal.
Ah oui, mais tu sais, le travailleur congolais, il ne voit que le salaire. Si tu vas négocier qu'on améliore les latrines, ce qu'on appelle conditions de travail, par rapport au travail décent, parce que le travail décent a 4 piliers. Vous avez la rémunération, vous avez la protection sociale, vous avez le gender, et en 4e position, vous avez les droits fondamentaux. Ça se lie. Et on ne peut pas, je ne dis pas que... on ne peut pas obtenir ça d'une manière directe. Sinon, nous serons au ciel. On est sur terre et on négocie. Quand on a obtenu quelque chose, nous le disons au travail.
Mais vous, vous plaidez particulièrement pour un salaire décent.
Tout à fait. Affirmatif. Et je confirme ce qui a été dit le premier. Nous voulons un salaire décent pour les Congolais. Un salaire où arrivera à nouer le deux bouts du mois.
Ce n'est pas encore arrivé.
C'est pas encore.
Depuis les accords de Mboudi, vous attendez toujours que les salaires des fonctionnaires puissent s'améliorer.
Mais Mboudi même là, Mboudi depuis tous ces temps-là, c'est l'État même qui a beaucoup de fonctionnaires entre ses mains que Mboudi n'est pas encore concrétisé. Mboudi n'est pas encore tombé dans le panier de fonctionnaires de l'État.
Pourquoi?
Parce que l'État avait beaucoup de problèmes.
Et vous pensez que ça va se concrétiser d'ici là?
Mais nous avons des coups de chapeau. Sur le plan économique, ça va. Mais voyons aussi le social. C'est tout ce que nous disons. On n'est pas aussi négativiste pour dire que non, rien ne va. Nous disons que sur le plan économique, coup de chapeau, on nous dit ça. Mais nous voulons que le social puisse suivre. Alors, on a bancarisé avec les fonctionnaires. Si on a plus ou moins la maîtrise des effectifs des fonctionnaires, le surplus, ce qui allait, on ne sait, ce qui allait, on ne sait où. On peut reverser ça, négocier et augmenter les salaires des fonctionnaires. C'est tout ce que nous demandons.
Une bancarisation qui pose quand même problème dans certains coins.
Oui. On n'est pas partout. Les banques ne sont pas partout. Il y a des coins où il faut recourir à l'Église catholique pour ne pas les citer. Et je pense que le pays est grand. Nous devrons nous habituer, trouver des structures qui nous aideront à rendre mieux service à nos populations.
Alors, il y a cet auditeur, Gabriel Kalunga, qui dit ceci. Les revendications de l'intersyndicale sont des slogans qui vont se taire après des réunions où vont se distribuer des gracieux perdièmes, aussitôt votés, sinon cooptés. Le bien-être des syndiqués n'est plus la finalité de leur mandat. Sinon, comment expliquer les très mauvaises conditions de travail de leurs syndiqués et le luxe fou du personnel politique et des hauts fonctionnaires?
Non, moi je ne me fais pas ni les défenseurs de politiciens. Moi, je suis le défenseur
des fonctionnaires.
Oui, le défenseur des fonctionnaires. Mais il faut savoir, par rapport à ce qu'il dit là,
que vos slogans vont se taire après des réunions où l'argent va se distribuer.
Non. Le conseiller du ministre, il est là. Avant même le premier, on avait écrit encore pour rappeler. Parce que n'oubliez pas, l'actuel ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, son Excellence, il est arrivé il n'y a pas longtemps. On était avec l'ancien et chaque fois, n'oubliez pas, après le 1er mai, un mois, deux mois, nous rappelons toujours par des correspondances pour dire son Excellence, les revendications des travailleurs, on avait lu ça le 1er, rappelez-vous, trouvez des solutions. Non, on ne dort pas. On ne dort pas. Ne pensez pas que pour avoir prononcé ça le 1er mai, c'est fini. Non. C'est le travail que nous faisons d'une manière journalière, semestrielle, mensuelle, trimestrielle, ainsi de suite. On n'arrête pas.
Merci, Monsieur Guy Kolela Tshibangu, Robert Ngabi. Je rappelle que vous êtes conseiller au cabinet du vice-premier ministre, au ministre de l'Emploi. Quelle lecture vous faites des revendications des travailleurs?
Madame, je m'appelle Robert Ngabi, pas Ngabi.
Ngabi.
Il y a M entre A
merci.
Et
merci pour
B.
La correction.
En fait, ce sont des revendications légitimes. Les syndicalistes ont comme employeur, d'une manière générale, surtout ceux évoluant dans les secteurs publics, l'État. Et la mission d'un État dans la gestion de la chose publique n'a autre finalité que l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens. Ça doit être l'objectif ultime de tout État et de tout gouvernement.
Ce n'est pas le cas en RDC.
Oui, le problème que maintenant les exceptions arrivent. Pourquoi? L'environnement économique, l'environnement politique ou les différents environnements conditionnent l'atteinte de cet objectif ultime pour tout État. La République démocratique du Congo, nous sommes tous, nous y habitons, nous le savons. Beaucoup de temps perdu dans beaucoup de temps de gâchis, beaucoup de temps d'instabilité politique, avec comme conséquence que l'économie a été complètement paralysée. Le paiement de salaire, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs font partie de ce qu'on appelle les retombées de l'activité économique. Il n'y a pas, comme disait un ancien premier ministre, on ne construit pas un paradis social dans un désert économique. C'est ça le grand problème du Congo. À peine en 2001, le budget de l'État était autour de 300 millions, avec une population évaluée à 70 millions d'habitants. Vous comprenez que c'est un pays pauvre. Et progressivement, les conditions économiques s'améliorent, mais le pays n'a pas encore le moyen suffisant pour répondre aux attentes de sa population pour le mieux vivre.
Qu'est-ce qu'il faut de plus?
C'est un processus. Le premier pas qui est fait, je crois pour ceux qui le savent, il y a dans ces pays où on parlait de 12 mois, 24 mois d'arriéré de salaire. Aujourd'hui, surtout ceux évoluant dans les services publics, rémunérés par le trésor public, il n'y a plus d'arriéré de salaire. L'État fait un effort de respecter cet engagement dans les délais. et vous ne pouvez réunir la masse salariale chaque mois que si vous avez un environnement économique qui vous le permet. Aujourd'hui, l'État se permet régulièrement. Il n'y a pas un secteur de l'État qui peut dire qu'il connaisse encore d'arriéré de salaire. C'est un élément capital déjà dans l'amélioration des conditions de vie.
Mais le salaire, il est combien? Parce que les travailleurs, les fonctionnaires réclament un salaire décent.
Le salaire décent signifie quoi? Le salaire décent signifie un salaire qui détient ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, capable de vous permettre de nouer, de vivre dignement, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Mais ce travail, ce salaire décent a besoin d'évoluer dans un cadre macroéconomique stabilisé.
C'est une mission. Mais il est stabilisé, ultime. Le cadre macroéconomique, selon le gouvernement.
Madame, vous avez encore un pays de 65 millions d'habitants avec un budget de 4 milliards ou 5 milliards en ressources propres de l'État. Nous avons connu effectivement le cadre macroéconomique stabilisé, mais le revenu, notamment à ce qui concerne notre pays, beaucoup plus de revenus ou de rentrées viennent du secteur minier. Le secteur minier a connu un problème dans l'investissement que les booms miniers n'a pas des retombées directes en termes de création d'emplois et aussi la participation au budget de l'État. Ça pose un problème. 5 milliards du budget en recettes propres et 75 millions d'habitants, dans parmi lesquels vous avez 40% de jeunes de cette population-là. Effectivement, ce sont des défis majeurs et le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Willy Makiachi, dans sa communication, il est conscient et tout gouvernement qui gère la République est conscient de cette situation de la République. Alors, mais les solutions ne sont pas des solutions miracles, comme l'a dit le président de l'intersyndicale. Le pays se gère.
Il faut attendre combien de temps?
Le temps en termes de l'infini, je ne peux pas le dire en termes de l'infini, mais la gestion de l'État, l'amélioration du travail, des conditions de vie des travailleurs, est un travail perpétuel et permanent. Il n'y aura pas un moment où on dira nous avons atteint le seuil et on n'a pas plus besoin d'améliorer.
Même le pays. Mais apparemment, ce sont les mêmes discours qui reviennent depuis des années. Améliorer les conditions de travail des fonctionnaires.
Madame, le salaire entre ce qu'on appelle les besoins primaires de l'homme. Et les besoins, mon ami psychologue est là, les besoins pour l'être humain sont incommensurables qu'on ne peut pas dire nous avons atteint le seuil de satisfaction. À chaque degré d'évolution, vous aurez toujours des problèmes sociaux, des nouveaux besoins qui vont se créer et l'État gestionnaire de cette population aura toujours l'obligation de répondre à de nouveaux défis qui se manifestent.
Merci, Monsieur Ngambi. J'espère que j'ai bien prononcé le nom cette fois-ci. Polydor Tangeli, psychologue du travail, analyste des questions sociales et expert en matière du travail. Quelle est votre lecture des revendications des travailleurs congolais?
Merci beaucoup pour la parole. Je fais une lecture typiquement positive de revendications de travailleurs, lorsqu'il faut comprendre que le 1er mai, c'est le jour consacré aux travailleurs et que ces derniers sont appelés à s'exprimer, à dialoguer avec son interlocuteur, son partenaire qui est le gestionnaire, qui est le gouvernement, qui est en train de réglementer le secteur du travail. Cependant, cette vision positive de ces revendications retient quand même mon attention et ça me pousse à questionner un peu, surtout lorsque je fais une approche comparative, puisque nous avons la journée du 1er mai est une journée internationale, cela a été fait aussi par-ci par-là. Lorsque je fais une approche comparative, j'apprécie le fait que on a cessé avec le folklore, hein, défilé pimpant avec des tissus, tout ça. C'est justement lié à la discipline, à l'orthodoxie économique dans laquelle se plonge notre gouvernement. Mais cependant, lorsque je compare à d'autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, j'ai entendu le président de ces pays amener des solutions au jour du 1er mai. Il dit, voilà, il y a tel problème dans tel secteur, ces gens-là, désormais, toucheront autant. Ce qui m'inquiète chez nous, c'est que nous sommes restés Nous avons cessé avec les défilés, nous avons cessé avec des tissus à acheter, puisque la fête du 1er mai était devenue presque un poids pour le travailleur. On a cessé cela, mais au plan de discours, on fait le statu quo. J'aurais bien voulu attendre de syndicats que, voilà, par rapport au 1er mai passé, voici les avancées au plan syndical enregistrées. Les avancées enregistrées au plan syndical. Par exemple, nous avons capacité non déléguée. Nous les avons formés de telle manière. Nous avons résolu tel problème pendant. Par exemple, il y a le problème des journaliers, il y a les problèmes de travail des expatriés, tous ces aspects-là. Au fait, pour moi, je me dis, la journée du 1er mai devait être un rendez-vous du donner et du recevoir. De sorte que on devait plutôt donner à la journée une approche de gestion par objectif. De manière à ce que chaque 1er mai, nous essayons de faire un bilan. Un bilan des déclarations qui ont été faites la fois passée et des acquis enregistrés par rapport à ces 1er mai. Et tel que consommé. Puisqu'au fait, en tant que psychologue, je me dis, est-ce que ce discours a atteint son objectif? Est-ce que l'interlocuteur a été sensibilisé, mobilisé à s'approprier les discours de ceux qui les défendent et les discours de ceux qui les gèrent? Apparemment, à suivre certains de vos auditeurs, je comprends que c'est passé de manière superficielle. Donc, c'est positif que le syndicat puisse réclamer, revendiquer, et que le gouvernement puisse exprimer la volonté de mieux faire les choses, et nous lisons déjà cette volonté, mais cependant, on aurait dû bien fixer le travailleur sur ce qu'on a déjà fait et ce qu'on compte faire, de sorte qu'au 1er mai prochain, on puisse évaluer les discoureurs. Vous comprenez?
Et ça, c'est le travail de l'intersyndicale qui doit pousser le gouvernement à faire ce bilan, dresser ce bilan.
Exactement, exactement. Au fait, le bilan doit être présenté tant par le banc syndical que par le gouvernement. Vous comprenez? C'est que pour moi, je pense que la journée du 1er mai devait être un rendez-vous du donner et du recevoir. On donne à qui? On donne aux travailleurs qui attendent de part et d'autre de bonnes choses. Aussi, voudrais-je dire ici qu'on a parlé de la rémunération. Oui, le travail décent, comme l'a dit le représentant du banc syndical ici, ne se limite pas seulement au salaire. Il y a des aspects contentieux. On devait fixer le travailleur sur des évolutions enregistrées. Mais cependant, on est revenu sur des discours prometteurs, des discours revendicationnistes qui flottent, qui restent superficiels et que l'interlocuteur, le travailleur lui-même, ne consomme pas. C'est comme ça qu'on va considérer que c'est du déjà entendu. Ce sont des chapelets de bonnes intentions, alors qu'en réalité, il y a le bilan a un contenu, et ce contenu devait être présenté, et des perspectives devaient être dégagées, hein, pour qu'au 1er mois prochain, on puisse gérer la journée par rapport à l'atteinte des objectifs. Voilà mon point de vue.
Merci Polydor Tangeli, Guy Kolela. Avant de réagir à l'analyse faite par Polydor Tangeli, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemi.
Théophile, je vous appelle depuis Kalemi. Notre intersyndical semble n'exister que pour Kinshasa. Comment peut-on expliquer cette continuité d'injustice salariale quand un huissier de Kin touche un salaire plus élevé qu'un licencié de Kalemi? Si on satisfait à Kin par rapport aux autres provinces, l'intersyndical s'était facilement.
Réaction, M. Kolela.
Merci beaucoup. Je pense que c'est un problème de structure du fonctionnement de l'intersyndicale par rapport aux organisations syndicales. Parce que moi, je me donne la latitude de communiquer mon discours aux provinciaux. Je me donne cette latitude-là. C'est une préoccupation vraie. Si on peut améliorer, moi, je suis toujours ouvert. Je ne suis pas fermé.
Alors, par rapport à l'analyse faite par M. Polydor Tanguely, vous avez aussi une part de responsabilité.
Oui, oui. J'ai beaucoup apprécié ce que notre expert vient de présenter dans ses analyses. Mais la difficulté est que nous passons à live le 1er mai. Quand vous nous prenez au milieu, vous n'avez plus le début. Vous pouvez nous prendre au début, vous vous fatiguez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ce sont les mêmes histoires. Experts, je vais vous rassurer que notre discours a été évaluatif. Nous avons évalué. Nous avons par exemple dit qu'il y a des tribunaux de travaux et les tribunaux du travail. Mais on doit continuer. Nous avons dit, on a mis fin, on a arrêté avec des maisons de sous-traitance. Persistez, n'arrêtez pas. Là, c'est une évaluation. Mais nous rappelons aussi à l'autorité, nous vous rappelons encore autant de points. Les agents qu'on avait licenciés dans les régies, à l'OCPT, le SMIG qu'on doit revisiter. Et vers la fin, nous disons, oui, il y a dialogue, on nous a promis le Conseil national dans le troisième trimestre 2015. Nous sommes en pourparlers.
On nous a promis quoi?
Oui, oui, on nous a promis la tenue du Conseil national. Parce que c'est au niveau du Conseil national où nous traitons de toutes les questions d'intérêt national pour les agents fonctionnaires et travailleurs de nos entreprises et ceux de la fonction publique. C'est là où on définit des grandes lignes. C'est au niveau du Conseil national. Et pour votre information, aujourd'hui là, autour de la table, les syndicalistes de la fonction publique, avec le ministre de la fonction publique, ils sont en train de négocier. C'est comme cela, vous constaterez, si vous avez le discours, je n'ai parlé que de la fonction publique vers la fin, pour dire que nous félicitons son excellence.
Mais est-ce que les travailleurs congolais sont au courant de tout ce que vous nous dites ici, monsieur?
Chaque organisation syndicale a ses structures, il doit s'en approprier et vulgariser ce que je suis en train de dire ici.
Apparemment, il y a un manque de vulgarisation, parce que quand vous posez la question aux travailleurs, sans vous mentir, ils ne sont même pas au courant de tout ce que vous nous dites là. C'est un problème.
Et d'ailleurs, je vais encore aller plus loin. L'expert l'a dit. Le 1er mai, c'est le jour où on fait l'évaluation. Nous communiquons ce que nous avons eu comme acquis, les difficultés. Nous relançons encore. Voici autre point que nous ajoutons. Et son Excellence, quand il arrive en tant que porte-parole du gouvernement, représente lui aussi de son côté, il dit, voici ce que nous avons fait. Effectivement, il a promis, mais nous l'attendons. Il a promis.
Il a promis de vous faire le bilan de ce qui a été fait, ce qui a été
fait
par le
gouvernement. Il a dit que cette fois-ci, on ne va pas mettre notre discours dans le tiroir et que ce sera examiné incessamment.
On a déjà entendu ces discours auparavant.
Bon, moi je ne
sais pas. Je vous donne la parole tout à l'heure, monsieur Ngabi.
Pardon, vous avez dit?
Je dis, on a déjà entendu ce discours, comme l'a dit la plupart des fonctionnaires.
Oui, vous savez, quand on dit qu'on a déjà dit, on a déjà dit, mais nous aussi syndicalistes, nous n'arrêterons pas de rappeler, d'insister, d'écrire et de passer même à la radio, à la télévision. Et le 1er mai de l'année prochaine, si on est toujours là,
vous allez revenir avec le même discours.
Non, non. On parlera toujours, on va rappeler.
Avec le même discours.
Mais je pense que son Excellence, c'est un homme de parole.
Monsieur Robert Ngabi, il y a aussi pour Ngabi, voilà, Ngabi. Il y a aussi cette réaction pour vous qui nous vient de Kalemi, on me dit, toujours à Kalemi au Katanga.
Kerkabwe, j'appelle depuis Kalemi au Katanga. Les revendications des travailleurs sont fondées car il y a longtemps que le gouvernement avait manifesté la volonté d'améliorer les conditions de travail par la signature de l'accord de Mboudi qui est resté sans suite. Alors, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement ne respecte pas cet accord? N'y a-t-il pas d'argent en République démocratique du Congo? Ou bien c'est seulement la mauvaise foi des animateurs du gouvernement de la République démocratique du Congo?
Réaction.
En fait, l'accord de Mboudi date. Hein. Je l'ai dit à l'introduction, la mission d'un gouvernement. Et ça, j'aimerais que notre auditeur de Calémie le retienne bien. Le gouvernement est institué avec mission ultime d'améliorer les conditions d'existence de son peuple. C'est ça la mission du gouvernement. Mais pour y arriver, je dis il y a des facteurs ou de préalables. Il y a le préalable économique, c'est-à-dire que vous devez avoir une économie qui répond à cet objectif ultime. Il y a de préalables politiques qui doivent y répondre également. Dans les cas d'espèce du Congo, c'est que vous dites toujours la rhétorique, les discours déjà entendus, les gens parlent toujours Congo, pays riche, nous sommes riches, effectivement, riches potentiellement. C'est là où j'ai dit que le Congo avait l'habitude de se comporter comme une dame qui se vante d'être vierge, mais qui se plaint de ne pas avoir d'enfants. C'est ça le problème du Congo. La forêt est vierge, quand la forêt est vierge, elle ne vous donne pas de richesses. Le Congo, aujourd'hui, à voir l'évolution de son économie. L'économie se stabilise pendant les 15 dernières années. En 2010, en 90 jusqu'au 2003, quelle a été la situation tant économique que politique de la République démocratique du Congo? C'est un pays qui se recherche encore en termes de stabilité politique, en termes de stabilité économique, en allant vers la croissance. Il faut pour l'instant consolider la croissance économique, la transformer à une croissance durable, soutenable dans le temps et dans la durée. À ce moment, ça dégage des manœuvres budgétaires, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, et les manœuvres budgétaires peuvent maintenant permettre au gouvernement de subventionner les secteurs social. Je viens de leur dire qu'on ne construit jamais un paradis social dans un désert économique.
Mais lorsque, aujourd'hui, l'engagement faut tenir compte de toutes ces réalités.
C'est pourquoi Mboudi est resté encore dans le tiroir depuis longtemps, parce qu'on n'a pas été en face des réalités économiques.
Et on va le sortir quand?
Je pense Mboudi. En citant un ancien premier ministre, le patriarche Antoine Gizenga, il avait dit « Si nous produisons plus et nous gérons mieux, nous pouvons faire plus qu'Mboudi. » Le problème réside dans la gouvernance de l'État, dans la production économique, afin de dégager des recettes ou de crédits réels pour améliorer les conditions de vie des citoyens qui restent, je le souligne, une mission ultime, un objectif pour tout gouvernement, sinon vous cessez d'être gouvernement. Quand vous êtes gouvernement, la mission que la nation vous donne, c'est d'améliorer le social, d'améliorer l'économie, d'améliorer la paix, la stabilité et la quiétude de ce peuple-là, afin qu'il vive mieux. C'est ça la mission d'un gouvernement. Mais pour y arriver, c'est par palier qu'on y arrive. Madame, il y a, je pense que tous les auditeurs peuvent bien suivre. Je suis comme le psychologue qui est l'analyste qui est avec moi, l'expert, sur ce plateau, nous sommes des cadres de l'enseignement supérieur. Et nous sommes le produit de l'UPN. Je suis chef des travaux à l'Université Pédagogique Nationale. Quand vous posez la question à l'enseignement supérieur, il y a 20 ans, qu'est-ce qui a été le salaire d'un enseignant? Il y a 30 ans, qu'est-ce qui a été en 85, jusqu'à 2000, le salaire d'un fonctionnaire de la République? Comment il a été rémunéré? Les cumuls d'arriérés des salaires, 24 mois, 12 mois. Mais si nous arrivons aujourd'hui qu'on ne parle plus d'arriérés des salaires, c'est une évolution positive dans l'amélioration des conditions. Mais l'augmentation, parce que les gens sont dans le chiffre, ils veulent voir vous quitter de 70 dollars ou 70 000 francs à 400 000 francs. C'est une mission, c'est un défi auquel le gouvernement ne sait pas se départir. Ça reste dans ses obligations comme gouvernement. Il doit aller vers cet objectif de rencontrer les aspirations du peuple, mais le préalable majeur, que ces aspirations doivent être suivies par les aspirations économiques.
Merci beaucoup, Polydor Tangeli, aussi pour vous, cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
Je réponds au nom de Gérald Kambale Kazingoufou. J'appelle la partie de Beni, en province du Nord Kivu. L'intersyndicale peut bien réclamer l'amélioration des salaires des fonctionnaires et le gouvernement continuera toujours à l'endormir avec promesses fallacieuse. Je pense que le niveau de notre budget, en dépit de sa petitesse, a encore des privilégiés parmi les bénéficiaires qui sont les politiques. D'où, l'intersyndical n'a aucune chance d'obtenir gain de cause, du moins dans le contexte actuel, s'il se veut réaliste. Ce serait chercher à extraire du sang dans une pomme de terre.
Réaction, Polydor.
Ça me fait rire, extraire du sang dans une pomme de terre, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais du sang. J'en appelle ici à de l'espoir de la part de travailleurs congolais, puisqu'au fait, nous devons compter aussi sur nos structures, sur nos gouvernants. En fait, il y a des avancées, comme l'a dit le conseiller, mais je tiens ici à rappeler que ces avancées ne peuvent pas constituer un oreiller de paresse. Un oreiller de paresse. Pourquoi ? Puisqu'au fait, si nous faisons un diagnostic du monde du travail aujourd'hui, nous allons voir que, à la portée tant des gestionnaires que des représentants, on aurait dû mieux faire. On aurait dû mieux faire pour produire plus, mais il se pose sérieusement un problème de gouvernance. Plusieurs fois, au sein de l'administration publique, les syndicalistes ont été associés à faire le contrôle de la paye. Ils ont amené carte sur table. Mais vous verrez qu'il y a certaines recettes qui sont des poches gardées pour des raisons politiques. Voilà pourquoi je rejoins les conseillers qui parlaient des préalables politiques. Il faut une certaine volonté politique à pouvoir résoudre un problème quelconque. Au fait, ici, la journée a été focalisée sur un travail décent. Et les syndicalistes ont plus axé leur discours sur la rémunération. Mais faut-il encore savoir quel type de travailleur, le profil du travailleur que l'on a ? Voilà pourquoi j'ai dit ici, les bilans du syndicat ne devaient pas revenir à tout simplement présenter ce que le gouvernement a fait, mais aussi de présenter ce que les syndicats ont fait pour améliorer, puisqu'au fait, les syndicats n'ont pas seulement l'obligation, le rôle de revendiquer, mais c'est aussi des capacités de rendre les travailleurs à même de produire pour que la production leur serve. Voilà le rôle. Donc, tout compte fait, je pense qu'ici, je puis seulement me rappeler les auditeurs à l'espoir. L'espoir fait vivre. Nous sommes dans un processus qui est positif, mais les acquis du passé ne peuvent pas constituer un oreiller de paresse. Je crois aujourd'hui, si nous faisons un diagnostic positif, un diagnostic objectif de la situation du monde du travail, 80% des choses auraient dû être mieux faites que 20 autres. Ce qui justifie la méfiance des travailleurs vis-à-vis de représentants et même de gestionnaires. Voilà pourquoi je reviens à ce que j'avais dit en amont, qu'aujourd'hui, le discours qu'a lu le président de la Confédération n'a pas atteint les interlocuteurs. Pourquoi ? Puisqu'au fait, il y a une méfiance. Il y a une méfiance entre les différents partenaires. Comment pouvez-vous expliquer que le fonctionnaire qui autorise le paiement des ministres cessait être payé à moins d'1% que le ministre ? Vous imaginez ? Il n'y a pas de secret. Voilà pourquoi il y a une certaine méfiance. Donc j'en appelle ici à une remise en confiance entre les différents partenaires dans le monde du travail pour qu'aujourd'hui on puisse gérer le monde du travail par objectif, de manière à ce que, au jour le jour, on sache les acquis d'un premier mai par rapport à un autre premier mai, plutôt que de rester stationnaire sur des intentions et des volontés exprimées.
Alors, Polydor, vous allez réagir brièvement à ce cri d'alarme de ces structures qui regroupent essentiellement des jeunes chômeurs qui demandent d'être impliqués dans la réflexion sur la problématique de l'emploi des jeunes dans le cadre du programme du gouvernement pro-IEN.
Bon, là, je trouve qu'il y a un problème d'information, puisqu'au fait, au niveau du ministère du Travail, il y a des efforts pour pouvoir prendre en ligne des comptes le point de vue des chômeurs. Et je crois que l'ONEM est en train de travailler avec des structures partenaires qui œuvrent dans le secteur de la réduction du chômage. Et il existe même un programme pro-IEN qui est en train de œuvrer dans ce sens-là. Mais je crois qu'une pareille organisation ne pouvait pas beaucoup attendre du gouvernement. Comme c'est une structure, elle fait partie de la société civile, elle devait plutôt œuvrer vers l'éducation à l'entrepreneuriat. Merci. Apprendre aux gens à ne pas être des demandeurs d'emploi, à créer le travail. Le conseiller l'a dit, nous Merci. Sommes dans l'espace économique Merci qui n'est pas autres. Favorable. Et à ce titre-là, comme il y a moins d'offres d'emploi, on aurait dû plutôt apprendre aux personnes à créer de l'emploi, à les initier à l'entrepreneuriat.
Je vous redonne la parole pour conclure, Polydor Tangeli, Guy Kolela. Il y a cet auditeur, Ado Kudichini, qui se pose la question de savoir si le travailleur congolais n'améliorera son travail que s'il touche un salaire décent, parce qu'actuellement, dans la fonction publique, il y a beaucoup d'agents qui ne produisent rien pour l'avancement du pays, mais attendent seulement à toucher un salaire à la fin du mois.
Merci pour la question.
Polydor est revenu sur sur votre rôle de pouvoir renforcer un peu la capacité des travailleurs.
Oui, parce que l'agent est fonctionnaire de l'État, il a des droits, il a aussi des obligations. Exactement. Le droit, c'est-à-dire un salaire décent, les conditions de travail, la protection sociale, les droits fondamentaux. Mais de l'autre côté, c'est la régularité au travail, le rendement au travail, pas de compromission au travail, mais il y a ce qu'on appelle le statut des agents fonctionnaires de l'État, où il y a des obligations des travailleurs. Même un agent qui ne vient pas au travail, mais ce n'est pas notre mission, nous syndicalistes, c'est d'accuser de notre travail.
Vous encouragez.
Non, je n'encourage pas. Non, je ne peux pas encourager. Notre mission, c'est de faire connaître les droits et devoirs des agents. Mais l'État, c'est à l'État de dire l'agent, il agit correctement ou il n'agit pas correctement. Je pense que le problème est là-bas. Moi, je ne veux pas me substituer en État. Mais tout ce que je demande à l'État, c'est de placer l'agent dans des conditions telles qu'il travaille bien. Oui, aujourd'hui...
Mais vous-même, quand un agent ne vient pas travailler, vous défendez pour qu'il ait un salaire décent.
Madame, il y a aussi l'éthique, hein? Ne t'en fais pas. Hein? On prend quelqu'un la main... dans le sac, et je vais faire quoi? Peut-être j'évoquerai des circonstances atténuantes. Ne t'en fais pas, moi je suis pour la sanction. La CC milite pour la sanction. C'est comme cela, quand nous donnons la formation, nous disons aux agents, faites attention à ceci, cela.
Alors vous allez devoir aussi conclure, monsieur Kolela, nous sommes à la fin de l'émission.
Non, il y a espoir. Dans notre pays, il y a espoir. Et je pense que même les autorités politiques, ils doivent d'abord, eux, être le modèle dans le travail.
Merci.
Parce que nous aussi, les syndicalistes, nous voulons être le modèle. On défend ce qui est défendable.
Merci, monsieur Kolela, monsieur le conseiller. Ça sera aussi votre conclusion. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce cri d'alarme de cette jeunesse qui demande d'être impliquée sur la problématique de l'emploi des jeunes?
C'est que peut-être qu'il manque la procédure à l'air indiquée. L'emploi des jeunes est une préoccupation majeure du gouvernement. S'il s'intéresse à participer à la création de l'emploi comme le fait le PROIEM avec le Fonds national de microfinance comme les autres, c'est question de rencontrer le coordonnateur du PROIEM qui mettra à leur disposition toutes les informations voulues afin qu'il participe. Mais il aurait été également mieux qu'il participe, comme l'a dit l'expert tout à l'heure, dans le cadre de la société civile agissante pour pouvoir initier les autres jeunes, pas tout simplement à venir demander Merci. De l'emploi à l'État, mais être initié à créer des emplois. C'est plus important et durable.
Et aux travailleurs, en un mot, vous dites quoi? Il y a espoir?
Les travailleurs congolais, je l'ai dit avec la parole de Patrice Emery Lumumba, héros national, que l'avenir du Congo est beau.
Merci, monsieur le conseiller. Un mot, Polydor.
Un mot, au fait, apprenons à travailler plutôt qu'à revendiquer.
Merci.
Et beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'action
Merci.
Que de
Merci, Polydor. C'est la fin de cette émission.